Évasion. Chapitre 1.
Nicole!
Elle pensa que la voix était issue d'un rêve, mais s'éveilla en sursaut quand on répéta son prénom.
Ils viennent me chercher,
se dit-elle, prise de panique.
C'est l'aube. Ma vie s'achève.
Elle inspira lentement et tenta de dominer sa peur. Elle ouvrit les yeux sur l'obscurité de sa cellule.
Nous sommes sur votre lit. Richard nous a chargés de vous faire évader. Le temps presse.
Elle pensait de nouveau qu'elle faisait un songe quand elle entendit une voix au timbre légèrement différent.
Tournez-vous et vous nous verrez.
Elle obéit et découvrit deux petits personnages féminins lumineux d'une dizaine de centimètres. L'un avait les cheveux courts et une armure du 15e siècle, l'autre une couronne et une robe médiévale.
Je suis Jeanne d'Arc.
Et moi, Aliénor d'Aquitaine.
Nicole rit et demanda
« Richard veut me faire évader? Comment ?»«
Nous avons saboté le système de surveillance »,
déclara avec fierté la Jeanne d'Arc miniature.
« Et modifié la programmation d'une Garcia. Elle devrait venir nous rejoindre dans quelques minutes. »
Richard a étudié toutes les possibilités. Il se consacre à cette tâche depuis qu'il nous a créés.
« Vraiment? Et puis-je savoir où il est ?»
À New York, dans votre ancien refuge,
répondit Jeanne.
Il nous a chargé de vous dire que là-bas rien n'a changé et qu'il vous aime. Il n'a...
Ne bougez pas,
ordonna Aliénor quand Nicole leva la main pour se gratter derrière l'oreille.
Je fixe un émetteur sous votre lobe.
Elle toucha l'appareil minuscule et secoua la tête.
Il peut donc nous entendre?
S'enquit-elle.
Non, c'est un simple dispositif de localisation, mais il saura constamment où nous sommes.
Habillez-vous,
intervint Jeanne.
Vous devrez être prête à l'arrivée de la Garcia.
Pendant qu'elle se rinçait le visage, Nicole soupçonna Nakamura de lui avoir envoyé ses deux robots. Le tyran souhaitait peut-être offrir à ses gardes une opportunité de l'abattre au cours de cette tentative d'évasion.
C'est impossible. Même si ces techs peuvent créer des machines aussi perfectionnées, seul Richard connaît l'admiration que je voue à Jeanne d'Arc et à Aliénor d'Aquitaine. Par ailleurs, je n'ai rien à perdre. Ils ont prévu de m'électrocuter à l'aube.
Elle entendit des pas dans le couloir et se crispa.
Asseyez-vous pour nous permettre de grimper dans vos poches,
lui demanda Jeanne. Nicole ne put s'empêcher de sourire.
Tu m'étonneras toujours, Richard, et tu ne peux imaginer à quel point je suis heureuse de te savoir en vie.
Une Garcia entra dans la cellule et ordonna
« Suivez-moi, Madame Wakefield, le moment est venu. »
L'angoisse l'assaillit, mais elle n'avait pas le temps de réfléchir et elle sortit dans le couloir. 20 mètres plus loin, deux biotes et un officier humain montaient la garde.
Attendez,
cria l'homme à l'instant où elles allaient emprunter l'escalier. Nicole se figea.
Vous avez oublié de signer la décharge,
dit-il en tendant un document à la Garcia. La biote hocha la tête et nota son matricule au bas de la feuille. Moins d'une minute plus tard, Nicole sortait de la grande bâtisse où on l'avait gardée captive pendant des mois. Elle inhala à plein poumon, puis emboîta le pas à la Garcia.
« Non !»
chuchota Aliénor dans les profondeurs de sa poche.
« Dirigez-vous vers le moulin à vent que vous devez apercevoir à l'ouest. Et hâtez-vous, il faut arriver chez Max Puckett avant l'aube. »
5 kilomètres séparaient la prison de la ferme de Max. Nicole suivait la petite route d'un pas rapide. Le jour ne tarderait guère à se lever. Rien n'annonçait sa venue dans le Nouvel Éden. Le soleil artificiel s'allumerait brusquement avant d'entamer son parcours au plafond de l'habitat.
Il nous reste 12 minutes.
Annonça Jeanne, à l'instant où Nicole atteignait la piste cyclable qui conduisait à la demeure. Bien qu'épuisée, elle continua de courir. Elle avait à deux reprises ressenti des élancements dans la poitrine.
« Je ne suis pas en forme »,
pensa-t-elle, en se reprochant de ne pas avoir fait régulièrement de l'exercice.
« Et je dois avoir 60 ans bien sonnés. »
L'habitation était obscure. À peine Nicole se fut-elle arrêtée sous la véranda pour reprendre haleine, que la porte s'ouvrit.
« Je vous attendais !»
dit Max, dont l'expression soulignait la gravité de la situation.
« Suivez-moi !»
Il l'étreignit rapidement, puis s'éloigna vers la grange.
« Je n'ai pas vu un seul véhicule de police passer sur la route !»
déclara-t-il.
« Mais votre évasion sera bientôt signalée !»
Ils entrèrent dans le poulailler et les gallinacés s'égayèrent dans toutes les directions en gloussant, piaillant et battant des ailes. Nicole manqua suffoquer, tant la puanteur était grande.
« On s'habitue à tout !»
déclara Max en souriant.
« Mais l'odeur devrait éloigner les policiers, et on ne la sent pas de votre cachette !»
Il gagna un recoin, chassa des poules et s'agenouilla.
« Quand ces robots miniatures m'ont contacté, je me suis demandé où je pourrais vous aménager un refuge. Puis j'ai pensé à cet endroit. »
Il retira deux lames du plancher qui dissimulait une cavité rectangulaire.
« J'espère avoir fait un bon choix. »
Il lui fit signe de le suivre et pénétra en rampant dans un boyau souterrain qui s'inclinait vers le bas après quelques mètres. Max utilisait une lampe torche pour éclairer leur chemin. Le tunnel débouchait dans les hauteurs d'un réduit obscur. Il descendit une échelle de corde, se tourna pour aider Nicole à le rejoindre, puis gagna le centre de la pièce et leva la main pour allumer une ampoule électrique.
« C'est pas un palace, mais c'est mieux qu'une cellule. »
Il y avait un lit, une chaise, des étagères de vivres et de livres électroniques, un placard avec quelques vêtements, un cabinet de toilette rudimentaire, un grand bidon d'eau qui n'avait dû passer que de justesse dans le tunnel et des latrines creusées à l'extrémité opposée.
« Avez-vous fait tout ceci par vous-même ? »
« Ouais, à la faveur de la nuit. »
« Comment pourrais-je m'acquitter de ma dette envers vous ?»«
En échappant à vos poursuivants. Je ne tiens pas à griller sur une chaise électrique, moi non plus. Oh, j'allais oublier. »
Il lui remit un lecteur pour les livres électroniques.
« J'espère que mes bouquins vous intéresseront. Les manuels traitant de l'élevage des porcs et des poulets n'ont pas les qualités littéraires des romans de votre père, mais je ne voulais pas risquer d'attirer l'attention en allant chez le libraire. »
Elle l'embrassa sur la joue.
« Max, vous êtes mon meilleur ami. Je ne... »
« L'aube a dû se lever !»
intervint Jeanne d'Arc.
« Nous avons pris du retard. Il nous reste à inspecter l'issue de secours avant le départ de Monsieur Puckett. »
« Merde !»
grommela Max.
« J'ai horreur de recevoir des ordres d'un machin à peine plus grand qu'une cigarette. »
Il prit Jeanne et Aliénor dans les poches de Nicole et les posa sur une des étagères.
« Vous voyez l'ouverture derrière la boîte de petits pois ? Elle donne sur une conduite qui débouche au-delà de la porcherie. »
Les robots allèrent s'assurer que le passage était praticable et Max expliqua la situation à Nicole.
« Les flics vous chercheront partout, surtout ici, car ils savent que je suis un de vos amis. Voilà pourquoi je vais condamner l'entrée de cette cachette. Vous avez de quoi tenir plusieurs semaines. Quant à nos petites amies, elles pourront aller et venir librement, si mes porcs n'en font pas qu'une bouchée. Elles seront votre seul lien avec l'extérieur. »
« Je ne vous reverrai pas ?»«
Pas dans l'immédiat. Ce serait trop risqué. Une dernière chose. S'il y a des policiers dans les parages, je couperai l'électricité pour vous informer que vous ne devez pas faire de bruit. »
Aliénor d'Aquitaine était de retour à côté de la boîte de conserve.
« Tout est parfait, »
annonça-t-elle.
« Jeanne s'est absentée. Elle va sortir de l'habitat pour joindre Richard. »
« Je dois moi aussi vous laisser.
dit Max.
Au fait, je tenais à préciser qu'en dépit de la piètre opinion que j'ai de mes semblables, vous m'avez convaincu que quelques rares humains méritent plus de considération que mes poulets et mes porcs.
Merci, Max. Il retourna vers l'échelle, agita la main et la laissa seule. Nicole s'assit sur la chaise et inspira profondément. Des bruits lui indiquaient que Max tirait des sacs d'aliments pour animaux sur l'entrée du tunnel.
Et maintenant ? Se demanda-t-elle.
À présent que la menace de son exécution ne gouvernait plus ses pensées, son esprit avait tendance à vagabonder. Elle songea à Richard, son mari, qu'elle n'avait pas vu depuis près de 2 ans. Elle se rappela leur dernière soirée, une nuit de massacre, qui avait débuté dans la gaieté par le mariage de leur fille Ali avec le docteur Robert Turner.
Richard était certain que Nakamura voulait notre perte, et il avait raison. Je t'ai cru mort, et je me demande bien comment tu as réussi à regagner New York.
Des larmes accompagnaient les souvenirs qui traversaient son esprit. Elle se revit dans l'air des aviens, bien des années plus tôt, captive de ces étranges créatures, semblables à des oiseaux, qui s'exprimaient en jacassant et en piaillant. Richard avait risqué sa vie pour aller la secourir. Ils étaient devenus amants alors qu'ils cherchaient un moyen de quitter l'île et de rejoindre leurs collègues de l'expédition Newton.
Notre couple a survécu à la salve de missiles nucléaires et à mon désir de diversifier le pool génétique de ma progéniture.
Elle tressaillit en pensant à sa stupidité.
Tu m'as pardonné. Et les sentiments qui nous unissaient se sont encore renforcés quand nous étions au point nodal avec l'aigle.
Qu'était cette créature? Qui l'avait créée? Elle se représenta l'être qui avait constitué leur seul lien avec l'extérieur pendant leur séjour dans cette station, l'humanoïde à tête de rapace qui se disait d'origine artificielle. Il avait un regard aussi pénétrant qu'Homais. Homais, son arrière-grand-père, qui avait mis sa robe verte de chaman des Sénoufos pour passer la voir à Rome 2 semaines avant le lancement du module Newton. Elle ne l'avait rencontré qu'à 2 autres occasions, dans un village de Côte d'Ivoire, à 7 ans, pour la cérémonie initiatique du Poro, puis 3 ans plus tard, pour les funérailles de sa mère. Il l'avait alors préparée à devenir la femme dont la tradition orale de son peuple annonçait qu'elle disséminerait la semence tribale jusqu'aux étoiles. Homais, l'aigle, Richard. 3 personnages exceptionnels. Le visage d'Henri, prince de Galles, vint compléter cette galerie de portraits. Elle se rappela leur brève liaison passionnée après qu'elle eut remporté sa médaille olympique. Sans lui, Geneviève ne serait jamais venue au monde. Elle pensait à sa fille aînée restée sur Terre quand elle remarqua les livres électroniques. Elle alla lire les titres. En plus des manuels d'élevage, Max avait dû lui prêter toute sa bibliothèque personnelle. Elle sourit et prit un recueil de contes de fées qu'elle glissa dans le lecteur. Elle le feuilleta et s'arrêta au récit de la Belle au bois dormant. Et lorsqu'elle lut à haute voix, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, un autre souvenir s'imposa à elle. Elle se voyait à l'âge de 6 ou 7 ans, assise sur les genoux de son père dans leur maison de Chilly-Mazarin.
L'histoire de la Belle au bois dormant me fascinait. Je ne pouvais savoir que ma vie serait encore plus extraordinaire que la sienne.
Elle remit le livre sur l'étagère, retourna s'asseoir et pensa à Richard.
Nous avons partagé tant de choses. J'espère pouvoir sentir de nouveau tes caresses, entendre tes rires et voir ton visage. Mais même si ce souhait ne se réalisait pas, je serais mal placé pour me plaindre.
J'ai déjà bénéficié de nombreux miracles tout au long de mon existence.